قلبك صدم في الدوا.
Vous êtes bien sur Zoom Écologie, sur RFPP 106.3 FM, c'est le soir. C'est l'été apparemment, on a un temps magnifique et une émission qui s'annonce super fort. C'est à vous.
Salut à tous. Ce soir sur Zoom Écologie 106.3 fréquence Paris pluriel, ça a été très rapide, vous avez tout entendu. Salut, là c'est Khaled, aujourd'hui je joue le rôle de l'animateur et à ma droite...
Bonsoir.
Qui es-tu?
Clément, de la bande à Bébert.
La bande à Bébert, et oui, et à ma gauche
Cyril Multitâche.
Donc voilà, et Johan, donc, qui est à la technique aujourd'hui, au fin fond de la cale.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on a un menu très, très dense. On va essayer de faire en sorte que ça ne prenne pas trop de temps. Hein, le moins dense possible, c'est le mieux. On va commencer donc avec un apéro presse où on va commencer à parler du nucléaire, notamment au début. Mais surtout aujourd'hui, donc, on va parler du procès à Colmar. Tout à l'heure, il y aura Guillaume comment déjà qui va nous appeler ?
Guillaume Descroix
qui va nous appeler donc, pour parler donc, du procès qui a lieu à Colmar, donc, du procès de faucheur d'OGM. Il nous donnera plus de détails tout à l'heure. Et si on a le temps, on fera un petit agenda à la fin. Donc pour le début aujourd'hui, nous allons parler du nucléaire. Cyril, tu as des choses à nous dire sur Marcoule, c'est ça, non ?
Alors Marcoule, pour commencer, il y a eu donc un accident industriel, hein, a dit le PDG d'EDF. Attention, ce n'est pas un accident nucléaire, c'est un accident industriel, parce que le nucléaire n'est pas une industrie. Bon. Donc c'est un four en fait de fusion de déchets alors qui a explosé, c'est ce qui a été annoncé un peu dans les médias et puis officiellement à ce moment-là. C'était présenté comme des déchets de faible activité, c'est-à-dire de la fusion ou pour faire des petits colis de déchets avec des gants, des combinaisons. Ce genre de truc. Et donc il y a eu un mort dans cet accident et 4 blessés. Donc immédiatement la machine a communiqué, s'est mise en route pour assurer que c'était un incident mineur, qu'il n'y avait pas de contamination possible, etc. etc. Par la suite, on a trouvé, il y a des choses un petit peu plus compliquées et puis des questions qui restent un peu en suspens sur cet accident. Donc il y a un journal espagnol, Publico, qui questionne en fait les autorités françaises. Donc le salarié décédé dans cet accident était d'origine espagnole. Et donc, selon les informations de Publico, la famille n'a pas pu voir le corps la victime a été mise en terre dans un cercueil protégé par un blindage spécial. Donc, ce qui indique une forte contamination du salarié. Et le journal espagnol se pose aussi la question de la nature réelle de ces déchets, suspectant en fin de compte des autre chose que des déchets de faible activité ou des gants ou des combinaisons, mais plutôt du retraitement de combustible, voire peut-être même du plutonium ou du tritium, sachant que Marcoule est encore un site sur lequel il y a des activités militaires. Voilà. Et bon, alors après, là-dessus, la page Wikipédia a changé parce que le jour de l'accident, en fait, il était écrit que des missiles nucléaires étaient entreposés. Et ça a été modifié avec une référence sur une décision du Sénat, si mes souvenirs sont bons, où en gros cette activité-là se serait arrêtée sur Marcoule. Donc toujours est-il qu'il y a des incohérences là-dedans. La CRIRAD a rassuré quand même les riverains par le fait que sur ces balises, parce que la CRIRAD a deux balises situées à quelques kilomètres de là dans la ville d'Avignon, donc une balise atmosphérique, une balise aquatique, les balises n'ont rien relevé et on peut voir les balises en temps réel sur Internet, c'est vrai. Par contre, un collectif antinucléaire a fait des mesures qui indiquaient des niveaux 3 à 8 fois au-dessus de la norme du bruit de fond. Donc ces résultats ont été communiqués à la CRIRAD, qui évidemment, en l'absence d'informations ou de mesures complémentaires ou de confirmation de ces mesures, ne peut pas vraiment se prononcer en tant que telle, mais qui pose elle quand même la question sur notamment une incohérence, c'est-à-dire que ce qui a été annoncé, c'est 64 000 becquerels qui auraient été dégagés, sachant qu'on a 4 tonnes de déchets. Donc pour la CRIRAD, en fait, c'est beaucoup trop faible pour être vrai, surtout dans les conditions dans lesquelles a été enterrée la victime. La CRIRAD pose aussi la question d'un témoignage anonyme d'un gendarme qui lui parle d'un débit de dose mesuré à 8,5 microsieverts sur la victime, ce qui est complètement incohérent avec les 64 000 becquerels au total qui ont été mesurés. Donc voilà, plus d'infos sur le site de la CRIRAD. Et puis il y a eu aussi un article, c'était sur Planète 89, rue 89.
Merci Cyril. Clément, toi, qui est à ma droite, tu as été justement, donc, tu as vu des gens qui proposent de sortir du nucléaire en quelques années. Qui font des scénarios, donc c'est tout frais, ça a été pondu aujourd'hui, donc on va être très spécial de la bande à Bébert, et après on reviendra à Cyril sur les pèlerins. Alors vas-y Clément, qu'est-ce que...
Sur le professeur pèlerin.
Sur le professeur pèlerin, pardon. Qu'est-ce que tu nous racontes donc aujourd'hui Clément ?
Une petite parenthèse positive dans ce monde nucléaire bien triste. Il faut savoir qu'on peut sortir du nucléaire, donc il y a des gens qui font des scénarios pour essayer de prouver que c'est possible. Même si entre 75 et 80% de l'électricité produite en France est d'origine nucléaire, on peut s'en sortir, sachant que la consommation d'énergie, c'est pas que de l'électricité, qu'il y a plein d'autres usages, et qu'on peut aussi consommer moins. Donc, voilà. Cet après-midi, j'étais à la présentation d'un scénario qui s'appelle Negawatt 2011. Donc, c'est la mise à jour d'un scénario d'experts en énergie qui sont résolument pour les économies d'énergie et les énergies renouvelables, et qui donc, corrélation, comme on dit, de façon très scientifique,
oui, tout à fait.
Vont prouver que c'est possible de sortir du nucléaire en 22 ans. Bon, alors il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas suffisamment rapide. Il faut quand même savoir qu'on est le pays le plus nucléarisé au monde, et que donc ça va être compliqué de sortir sans remous du nucléaire, si on y arrive. Et donc, ils arrivent à une économie drastique d'électricité dans les foyers et dans les industries, et également les entreprises, enfin toutes les entreprises. Et ce qui permet de sortir du nucléaire en 2033. Donc, je ne vous donne pas tous les détails, mais bon, il y a plusieurs tranches nucléaires. Et en gros, le dernier réacteur serait fermé en 2033, donc à savoir les derniers qui ont été mis en service. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce que... avec tout ce qui nous tombe sur le nez, avec Fukushima, les accidents en France...
Statistiquement, ça laisse encore la possibilité d'accidents majeurs
tout à fait. En 20 ans. Chaque jour qui passe, c'est une possibilité importante d'accidents majeurs. Donc c'est vrai que là, ils se sont pas dit qu'il fallait sortir le plus vite possible sans se soucier du reste. C'est-à-dire, au vu de la consommation d'électricité aujourd'hui et de l'abondance énergétique dans laquelle on est, enfin en tout cas dans laquelle on croit être, parce que ça peut diminuer fortement dans les années qui viennent, ils ont estimé que c'était pas possible d'aller beaucoup plus vite. Après, je suis d'accord qu'on peut se dire que, vu le danger que ça représente, il faudrait en sortir plus vite. Et du coup, socialement, est-ce que c'est acceptable d'avoir des coupures électriques
Au Japon, ils ont une certaine expérience de ça, vu que depuis la série de tremblements de terre et les séismes à répétition, c'est une quarantaine de réacteurs qui sont arrêtés actuellement.
Ça pousse aux économies d'électricité. Après, là, c'est un scénario qui est, entre guillemets, réaliste, qui vise à essayer de convaincre un peu tout le monde qu'on peut y arriver en douceur, qui ne dit pas qu'on n'aura pas d'accident dans les 22 ans qui viennent. Mais que si on va plus vite, on peut aussi tomber sur d'autres problèmes, au niveau notamment de la reconversion des emplois, de la production d'origine renouvelable ou au gaz de façon temporaire. Et enfin, en fait, ce n'est pas juste un scénario de sortie du nucléaire, c'est vraiment un scénario de transition énergétique à l'horizon 2050 et en même temps de baisse des émissions de gaz à effet de serre issues de l'énergie par 16. Donc dans le contexte actuel, il y a quand même aussi un problème climatique majeur. Et donc, ça permet d'allier les deux. Donc, comme quoi, on peut sortir du nucléaire et en même temps épargner le climat. Quoi.
Moi, j'avais un petit peu regardé ça. Et c'est vrai que c'était intéressant parce qu'en fait, eux, déjà, il y a quelque chose, c'est que d'ici 2050, on peut sortir à 100% du nucléaire. C'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, ce que j'avais trouvé intéressant.
2033.
À 100%, on pourra ne plus avoir de production nucléaire. Et ce qu'ils avaient dit qui était aussi intéressant, c'est aussi que, en gros, la priorité, c'est de ne pas... Enfin, en gros, c'est que quand les gens partent à la retraite des centrales nucléaires actuelles, on ne les renouvelle pas. Enfin, pas l'emploi seulement. C'est que ces centrales-là, qui sont vouées à disparaître, ben, il ne faut pas les renouveler. Contrairement à ce que fait les orientations du gouvernement, qui veulent les renouveler. Et ils disent que, voilà, enfin, en fait, plus on va renouveler les centrales nucléaires... plus ça va être coûteux pour nous de reconvertir, de déjà, changer dans les emplois.
C'est déjà des investissements lourds pour les prolonger.
Oui, ils ont.
Ils prennent ça en compte également. Mais enfin, c'est pas juste, comme je disais, c'est pas juste un scénario de sortie du nucléaire. C'est vraiment vu de façon globale avec toutes les sources d'énergie, les besoins. Et encore une fois, ils sont entre guillemets raisonnables et. On pourrait voir des choix politiques ou sociaux qui pourraient être plus radicaux dans le cas d'un accident dans les 5-10 ans qui viennent, par exemple.
Donc, il y a une intervention.
Ou demain.
Ou demain, oui. Ou ce soir. Johan, tu voulais parler de quelque chose, une surprise.
Oui, enfin, pas une surprise, parce que malheureusement, ça continue. Et donc... je vais vous parler d'un petit peu, donner des nouvelles de Fukushima, parce que 6 mois après, ben c'est toujours actif et ça se passe pas bien. Et c'est, on est même au-delà des pires prédictions. Avec les cartes officielles, on s'aperçoit que les zones de contamination sont beaucoup plus larges que prévu. Les citoyens font des mesures avec... des résultats qui sont dramatiquement hauts. En ce moment, il y a une vidéo qui tourne avec une mesure dans un train où on atteint des valeurs de 100 fois le niveau de référence. Il y a une personne, alors ça c'est assez amusant, une personne qui a été arrêtée pour des faux appels qui injuriait ou laissait des blancs il a fait 1800 appels pour critiquer TEPCO. Il a fini par surprendre et devant le juge, il a assumé complètement en disant qu'il en avait marre d'être forcé à manger de la nourriture contaminée suite à l'accident. C'est sa manière de réagir. On a, même au niveau des travailleurs, des réactions extrêmement... pas bonne, dans le sens que les travailleurs sont soumis à des niveaux de radioactivité qui sont mortels. au point où même certains, les plus expérimentés, refusent carrément d'y aller. Des problèmes de contrats qui ne sont pas payés. On a peut-être parlé de cet homme qui s'est mis devant la caméra de TEPCO et qui, justement, en pointant lui, la caméra et tous les autres, voulait dénoncer cet état de fait. Toutes ces choses-là, on n'en parle pas beaucoup, d'ailleurs, dans les médias mainstream. Et une autre information qui est assez dramatique aussi, et qui contredit encore les scientifiques dans leur évaluation de la crise, c'est que des mesures ont été faites de l'océan à proximité de Fukushima et dans l'océan beaucoup plus loin. Et il s'avère que le principe de dilution sur lequel comptaient les scientifiques pour minimiser la crise ne s'avère pas valable. Et on trouve des taux assez élevés, assez importants, tout en restant en dessous du seuil maximal d'alerte, mais des taux qui montrent que le principe de dilution ne fonctionne pas bien, et encore, et encore, et encore. Bref, la situation est mauvaise à Fukushima. Des observations de fumée, de vapeur étaient faites sur les réacteurs 1 et 3, c'est sûr, 2, je ne me rappelle plus exactement. Et plus grave, toujours à prendre avec des pincettes, mais une vidéo qui montre que depuis le dernier tremblement de terre qui a eu récemment, très très récemment, il y aurait un incendie sur le site de Fukushima et qui serait à proximité du réacteur 4, la piscine. Tout ça dans le silence le plus total des médias mainstream. Une autre information rapide sur le satellite UARS. Satellite très intéressant parce qu'il tombe. Il est tombé et visiblement, il a attiré beaucoup l'attention. Déjà, sur le fait qu'on pouvait observer sa désintégration. Donc, c'est pas négatif à voir, parce que c'est assez joli à voir. Le seul petit problème, c'est que je me suis assez intéressé à ce problème et je me suis aperçu que... il y a des rumeurs qui circulent assez insistantes sur la présence de plutonium à l'intérieur de ce satellite. Alors c'était très intéressant parce qu'effectivement, le plutonium est utilisé sur des sondes interstellaires, enfin de voyages spatiaux, notamment celles qui sont allées vers Mars, Pluton, Jupiter, etc. etc. Et donc, il s'avère qu'on utilise beaucoup plus fréquemment que voudrait nous le faire croire dans le domaine du spatial, les fameux petits réchauffeurs à base de plutonium ou générateurs électriques RTG, radio-élément thermoélectrique générateur de plutonium. Donc, quand le spatial dit, enfin, la NASA dit, surtout ne récupérez pas les débris de satellites, oui, c'est pas pour rien. Parce qu'effectivement, chimiquement et radiologiquement parlant, il y a de fortes chances qu'ils soient contaminés. Et vous retrouverez des liens sur Internet. Vous pourrez retrouver sous zoomecologie.net un lien qui parle justement de ces nombreuses utilisations de modules de plutonium sur des satellites qui sont écrasés sur Terre. Voilà, une petite info à noter. Et voilà, en ce qui concerne le nucléaire.
Et puis bah non, on n'avait pas complètement fini. On va essayer d'enchaîner. Bon bah.
Je voulais juste donner le lien de Negawatt, donc l'association negawatt.org. Vous retrouverez le scénario 2011 en téléchargement. Bonne lecture.
Voilà. À vérifier tout ça. Alors par contre, on a, il y a quand même une autre grosse info sur le nucléaire, toujours. C'est le non-lieu du professeur Pellerin.
Est le professeur Pellerin ?
Le professeur Pellerin, c'est l'artisan principal, un des artisans de la désinformation sur les impacts sanitaires du passage de nuages de Tchernobyl, qui parlait dans les journaux télé pour expliquer d'abord que de toute façon... les particules n'atteindront pas la France, et ensuite que c'était vraiment tellement faible que ça représentait que finalement qu'un intérêt purement scientifique. Donc, sauf que ce procès donc, du professeur Pellerin était engagé par une association de malades de la thyroïde. Et donc, le professeur Pellerin, là-dessus, a eu un non-lieu. Alors, il y a quand même sur cette histoire-là des gros trucs. Hein. Faut quand même savoir qu'il y a la juge qui était sur le dossier, donc qui était Marie-Odile Bertella Godefroy, donc a documenté beaucoup sur notamment la progression de prise de Levothyrox, qui serait désormais le troisième médicament le plus consommé en France. Et une corrélation entre le passage du nucléaire et la multiplication des problèmes thyroïdiens. Ça, c'est avéré. Il y a des études en cours encore dessus. Évidemment, c'est pas terminé. Donc l'association des malades de la thyroïde a décidé d'aller en cassation. Et alors, ce qui est frappant là-dessus, bon, parce que finalement. La justice, bref. Hein. Mais ce qui est frappant, c'est le discours des nucléocrates derrière, qui triomphent sur cette histoire-là, avec notamment la personne de Francis Sorin. Donc Francis Sorin, il est responsable du pôle information de la Société française d'énergie nucléaire. Donc Sven, et il a publié le 20 septembre un article sur Doc, à la fois sur le site de Sven.org et à la fois sur le site de l'Association française pour l'information scientifique, qui est un site qui est connu pour à la fois pour ses positions scientistes, qui s'était illustré notamment par des articles bien puants à la sortie du film de Marie-Monique Robin. Une association de lobbyistes en fait qu'on fait notamment des pétitions par exemple contre le moratoire sur l'OGM MON-810, oui ça existe, et l'AFIS, et c'est important à connaître pour le mouvement écologiste, oui. parce que c'est vraiment les lobbyistes scientistes et qui ont de l'influence. C'est-à-dire qu'on retrouve, je parlais de la sortie du film de Marie-Monique Robin sur Monsanto, la personne qui avait écrit cet article-là où il essayait de la démonter, c'était quand même une personne d'alternative libérale Grenoble. On retrouve pas mal de choses là-dessus. Donc ce Francis Sorin là qui a écrit cet article, on le voit intervenir assez régulièrement dans des émissions du style C'est dans l'air, etc., etc. À chaque fois que ça parle d'énergie nucléaire. Et l'AFIS est régulièrement citée comme une source, comme une référence scientifique par pas mal de médias. Donc il faut rappeler quand même que l'AFIS, en 1996, ils ont sorti un article, en gros, qui expliquait que les journalistes exagéraient les 2000 morts de Tchernobyl, puisque pour l'AFIS, il n'y aurait que quelques dizaines de morts et un tout petit millier d'irradiés. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Et puis de nous rappeler quand même les accidents de la route et tout ça pour expliquer que vraiment, c'est vraiment pas un problème. Alors, il y a quand même quelques petits oublis là-dedans. Hein. On rappellera à l'AFIS deux études. D'abord, une qui est... qui sont celles d'Alexeev Nesterenko et de Vassili Nesterenko et d'Alexeev Yabiolov, qui a été publiée par l'Académie des sciences de New York en 2010, qui, elle, parle plus d'un petit million de victimes. Alors, pas forcément de décès direct, mais liés à différentes pathologies, et ça continue, c'est encore. On peut aussi citer le dossier... Health Effect of Chernobyl, donc 25 ans après la catastrophe. Là, c'est des physiciens pour la prévention de la guerre nucléaire. Donc là, c'est des Allemands principalement qui ont appuyé ce rapport et qui montrent tout un tas de pathologies sur les naissances qui ne sont pas forcément des cancers, qui sont pas... Ça peut être lié à beaucoup de problèmes. Donc ça, l'AFIS n'en tient pas du tout compte. Dans cet article de 1996, ils oublient purement et simplement les liquidateurs.
Oui, non. Voilà.
Donc c'est l'Association française d'information scientifique. Voilà. Donc, ce Francis Sorin de la FIS, dans son article, se réjouit. Alors, le professeur Sorin n'a jamais dit que le nuage s'était arrêté à la frontière. Première nouvelle. Comme le souligne la cour d'appel, on va voir la subtilité du truc. Il n'a jamais dissimulé l'existence du panache radioactif sur le territoire français. On voit un petit coup de subtilité de communication entre un panache et un nuage. Et alors, sur cette histoire-là, c'est vrai que dans le texte, il n'a pas dit que le nuage s'est arrêté à la frontière. Ça, c'est le canard enchaîné qui l'a titré, mais c'était par ironie sur la communication de l'époque. Et des morceaux, des articles choisis dans Le Monde et dans le canard enchaîné de l'époque, au 30 avril, aucun risque de retombée radioactive en France. La France a échappé aux retombées directes du nuage qui aurait seulement frôlé l'Hexagone, etc., etc. Pour trois jours après, Le Monde titrait sur des informations du gouvernement Chirac. La preuve est faite une fois de plus que le lobby nucléaire ne peut être jugé parti, c'est-à-dire fabricant, vendeur et contrôleur. Et puis, alors bon, on retrouve dans les journaux de l'époque le fait qu'y compris au Parti Socialiste et même chez les Verts, finalement, c'est pas venu d'eux vraiment. C'est plutôt sur des fuites venues d'en haut que le nuage avait pu faire sa venue officielle en France. Voilà. On a eu un peu plus tard après une note confidentielle du professeur Pellerin qui a été révélée par Le Figaro. Donc c'était une lettre qui était adressée au CEA, commissariat de l'énergie atomique, où on voyait bien que la seule préoccupation de Pellerin était de minimiser la catastrophe. C'est-à-dire qu'avant même que les autorités de Moscou elles-mêmes soit vraiment au fait de ce qui se passe et avant même que la fuite soit colmatée, le professeur Pellerin disait que en ce qui concerne les populations, il y a certes un problème d'hygiène publique, mais pas de réel danger et certainement pas plus loin que 10 à 20 km. Si on détecte quelque chose, il ne s'agit que d'un problème purement scientifique.
Merci Cyril. Donc du coup, on va enchaîner. On n'a plus tellement de temps, mais donc dans l'Aéropresse, moi je voulais vous parler un peu de deux, trois événements donc, que je tiens de la revue Silence. Tout d'abord, le 28 août 2011, il y a eu 78 faucheurs volontaires qui ont neutralisé une parcelle de 5000 m2. C'est quand même pas mal, hein, 5000 m2 qui est portée sur une variété. Comment ?
Quick.
Ouais. Variété de tournesol. Tolérante à un herbicide donc utilisé dans la lutte contre l'ambroisie dans la Drôme donc c'était et ça va rejoindre un peu notre sujet donc qui vient où Guillaume donc va nous contacter d'ici peu de temps pour donc parler du procès donc des faucheurs d'OGM. Mais entre temps deux petites nouvelles en fait qu'il y a aussi dans cette revue qui sont assez intéressantes. D'abord c'est le WWF qui a lancé donc une table ronde sur le soja responsable et donc qui fournit une certification aux plus gros pollueurs donc agrochimiques et biotechnologiques de la planète tels que Monsanto, Nestlé, Cargill et Unilever.
C'est-à-dire c'est un label WWF pour Monsanto.
Exactement, donc vraiment WWF continue à s'éloigner de plus en plus de sa lutte d'origine, on dirait, mais bon.
La prochaine fois, on vous ramène la tête de Serge Aurue. On va faire ce qu'on peut. C'est le président.
Ouais, hein, on voudrait bien l'interviewer. Hein, mais je ne sais pas s'il va être d'accord pour venir. Donc, en tout cas, il continue à donner du crédit donc, à ce genre de choses pour une image d'aider, comme on dit dans le métier, développement durable. Donc voilà. Enfin bon, mais cette certification, donc. N'implique aucune pratique en fait, aucun changement dans les pratiques des multinationales en plus. Sur le soja OGM autorisé, notamment, ils disent rien. Sur le travail agricole mal représenté, sur les protections des forêts, donc pourtant c'est le cœur du métier de WWF de protéger donc les forêts. Mais bon, on n'en parle pas trop. Ils parlent même pas de la réduction des herbicides dedans. Une grosse remise en question donc de cette ONG. Je pense que pour ça, donc c'est Bastamag qui a révélé l'info d'origine. Donc voilà, enfin on vous invite à aller dessus pour voir les détails. Et donc juste une dernière info, plutôt positive là pour le coup, c'est la Hongrie qui détruit donc 1000 hectares de culture OGM. La Hongrie donc, s'est dotée d'une nouvelle constitution qui a interdit la culture des OGM sur son territoire, ce qui est assez positif en soi et assez risqué aussi je pense au niveau peut-être européen là, pour eux. Voilà, c'était pour finir sur une petite note positive. Là-dessus, avec ce texte donc, qui va entrer en rigueur à partir du 1er janvier 2012, comme quoi les États, s'ils le veulent, bah, ils peuvent aussi bien sortir du nucléaire que sortir des OGM. Sur ce, je pense qu'on va enchaîner sur une petite musique et après on va voir donc, Guillaume au téléphone. Salut à tous, donc bon retour sur Zoom Écologie sur 106.3 fréquence Paris Pluriel. Donc, vous venez d'écouter JC Dorado, donc dans un album, sur un album qui s'appelle L'Inde. Donc, vous le connaissez certainement pas, mais voilà, c'est un petit chanteur du métro que vous envoyez souvent, et vous pouvez le retrouver sur jcdorado.com. Donc, du coup, nous étions en train de parler donc du fauchage de champs de tournesol muté tout à l'heure, et actuellement, il y a un procès de faucheur d'OGM qui a lieu en ce moment même. Donc là, il y a 3 jours donc, de procès donc, à Colmar. Et nous avons donc Guillaume au téléphone avec nous. Guillaume, est-ce que tu nous entends ?
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Salut.
Donc Guillaume, est-ce que donc, tu peux nous parler de ce procès déjà pour quel type de le fauchage date de quand tout d'abord donc au niveau donc du procès est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé déjà actuellement?
Eh bien, tout à fait. Donc, juste pour resituer pour les auditeurs un petit peu le contexte de ce fauchage. Donc, c'est une vigne transgénique de l'INRA, hein, l'Institut national de recherche agronomique, donc qui est un établissement public français de recherche, qui depuis la sortie de la guerre assure un petit peu la recherche autour du monde agricole français. Donc, le 15 août 2010, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an, nous avons effectivement décidé, les faucheurs volontaires, de passer à l'action. Et nous sommes rendus donc très tôt le matin, puisqu'il était 5h30, à une soixantaine, dans une parcelle donc protégée par du grillage et de la vidéosurveillance. Nous avons donc, en 6 minutes, dixit le procureur, donc tombé les 70 pieds de vigne transgénique qui étaient donc modifiés génétiquement pour censer le faire résister à une maladie de la vigne qui n'est dans l'absolu pas si grave que ça, qui s'appelle le cournoué, qui provoque une diminution de la taille des grains, un petit peu moins de production, tout ça, tout ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. À la suite du fauchage, nous avons attendu à l'intérieur que la police vienne constater, nous avons donné nos noms et donc s'ensuit un procès, logiquement, comme on le demande nous en tant que citoyens, pour enfin ramener toujours, c'est un petit peu notre dynamique, l'action non violente, mais aussi pour ramener au devant de la scène médiatique et citoyenne la problématique des OGM, comme on sait entre guillemets si bien le faire depuis une petite dizaine d'années maintenant. Voilà, donc le procès a donc démarré mercredi et la première journée a été en fait consacrée aux dépositions des 60 prévenus. Donc nous sommes passés les uns derrière les autres et nous avons expliqué nos motivations personnelles à être passés à l'action, toujours dans le cadre de cette désobéissance civique non violente à visage découvert. Donc ça a été, ça a commencé à 8h30 du matin et ça s'est fini à 9h du soir, mine de rien. Voilà, chacun a déposé entre 3 et 5, 10 minutes maximum, avec entrecoupé par des potentielles questions de la présidente du tribunal ou de l'avocat de la partie adverse. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Que nous, on est très contents de la tenue de ce procès pour l'instant, parce qu'on ne s'est pas laissé enfermer dans un débat scientifico-scientifique. C'est-à-dire que nous considérons que les OGM cristallisent un petit peu tous les problèmes de ce monde libéral, sous plein d'aspects différents, économiques, environnementaux, sociétaux, évidemment agricoles. Et donc ça, je ne sais pas si vous avez envie que je vous développe ces aspects-là des choses. En tout cas, on a pu, nous, au travers de nos 60 témoignages, faire passer toutes ces notions et on ne s'est vraiment pas laissé enfermer parce que nous, en gros, nous ne remettons pas en cause la recherche, nous remettons en cause cette recherche-là. Qui nous paraît, c'est même pas qu'elle nous paraît, nous estimons qu'elle s'inscrit dans une dynamique agricole productiviste qui ne... Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord, l'environnement va mal, aussi à cause des pratiques agricoles, et qu'il faut vraiment arrêter ces délires qu'on fait subir à la Terre depuis maintenant la Révolution verte à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, Guillaume, est-ce que tu peux détailler un peu plus ? Nous, on est preneurs, si tu veux détailler plus sur les pratiques agricoles et sur la vigne. Moi, je me rappelle que j'avais vu votre tract, justement, qui était assez pédagogique, je trouve, justement. C'est très intéressant, parce que normalement, dans les tracts militants qu'on a, C'est plutôt des trucs qui disaient « Allez-y, mobilisez-vous, on a besoin de vous ». Et vous, vous avez été vraiment très pédagogique pour expliquer justement pourquoi vous êtes attaqué à cette vigne, que c'est de la recherche en plus, donc on a expliqué par rapport au productivisme. Mais nous, on t'invite à détailler encore plus, donc on t'écoute.
Alors, par où commencer? Donc, en gros, l'INRA, Institut de Recherche Agronomique, donc institut public, je le rappelle, marche avec des deniers publics, c'est-à-dire avec nos impôts. Il faut savoir que cette vigne, s'ils font des recherches dessus, est déjà sous le coup de 3 brevets, dont tout le monde connaît l'entreprise qu'il détient, puisque je vais la citer, c'est Monsanto, plus 2 autres brevets déposés par un ex-chercheur de l'INRA qui s'est, entre guillemets, échappé aux États-Unis. Donc la vigne, déjà, est sous le coup de 3 brevets dans sa méthode de modification. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'INRA, qui fait des recherches sur cette vigne, va évidemment pas la laisser dans une jolie armoire derrière une vitre si jamais ses essais devaient s'avérer concluants. Ce qui ne l'est pas, hein. Rassurez-vous, on n'est pas prêt d'avoir de la vigne transgénique dehors. Vu ce qu'on a tombé déjà, donc là, déjà, il n'y en a plus, donc c'est pas mal. Et celle, le résultat, là, le début de résultat qu'ils avaient était vraiment pas terrible. Ça ne marchait pas. Mais à supposer que ça fonctionne, cette vigne, c'est-à-dire que si elle avait vraiment rempli sa fonction de protection contre ce fameux virus, elle aurait été vendue. Alors quand les gens prêchent, les gens de la recherche française prêchent pour une certaine forme d'indépendance de l'agriculture française, de la recherche, alors que déjà rien que le fait de commercialiser cette vigne, si elle avait fonctionné, donc, aurait de fait fait tomber des royalties dans les escarcelles de Monsanto, qui est quand même une grande et malheureuse entreprise américaine qui aurait fait mieux de ne jamais exister. Ça, c'est vraiment un point assez important. Ensuite, le point vraiment, un autre point qui était très très important, c'est que l'INRA a mis en avant que tout le programme de vigne autour de cet essai en plein air, hein, au fait, je n'ai pas précisé, mais bon, ça me paraissait tellement évident, cet essai a été réalisé en plein air. Donc évidemment, on s'oppose à ça, hein, pas d'OGM dans les champs, dans les assiettes et tout ça. Donc ce que l'INRA a mis en avant, c'est que le protocole de cet essai a été fait de façon concertée et citoyenne. Alors nous dénonçons fermement cet aspect des choses, parce que ce n'est absolument pas vrai. Et je vais vous le démontrer. Logiquement, quand on veut faire un essai de vigne OGM, à la rigueur, déjà, on pose la question, est-ce qu'il est pertinent ou pas de le faire, cet essai? Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives, quelles qu'elles soient, pour voir si déjà la transgénèse, donc l'OGM, est justifiée en laboratoire et puis au champ. Or, là, le comité local de suivi, c'est donc ces fameuses personnes qui ont été choisies par l'INRA, c'est-à-dire qu'elle est un peu juge et partie, ils ont été formés par l'INRA aussi, n'a pas eu à répondre à la pertinence de faire un essai ou pas OGM, mais a eu à répondre à la question suivante, comment faire l'essai OGM? Ce qui change tout. C'est-à-dire que la décision de le faire était déjà prise, ils n'ont qu'eu à gérer les modalités. Ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant ce comité local de suivi, moi, je ne sais pas, mais je m'inscris dans quelque chose comme ça où j'ai envie de m'investir. Moi, citoyen, dans une problématique de science, j'ai envie qu'on me donne toutes les billes autour de cet essai pour que je puisse, à la lumière des informations que l'on va me fournir, essayer de prendre une décision la plus éclairée possible. Or, l'INRA, dès le départ, a dit qu'il n'y avait pas d'autre alternative que la transgénèse, donc l'OGM, pour lutter contre le cournoué. Ce qui était un immense mensonge, puisque l'INRA elle-même avait, un des chercheurs de l'INRA de l'unité de Montpellier, a déjà obtenu une vigne par sélection classique qui résiste au moins aussi bien, voire mieux, que le modèle transgénique qu'on a fauché donc il y a un an. Ensuite, ce que j'aurais envie de dire, c'est que si hier nous avons eu, nous, la part belle, c'est-à-dire les 60 prévenus, aujourd'hui c'était la partie témoignage. Comme le veut la justice, ce sont d'abord les témoins de la partie adverse qui sont venus à la barre, et ensuite ce sont les témoins des prévenus. Bon, là je vais juste vous raconter une petite anecdote, on a assisté à un vrai spectacle de clown avec l'INRA fait citer un scientifique, un chercheur, qui appartient à l'Académie des sciences. Vous savez, c'est celle qui a dit que l'amiante n'était pas dangereuse. Juste une petite piqûre de rappel, comme ça, pour rire. C'est pas drôle, mais ça nous a exaspérés, surtout dans le discours que ce monsieur a tenu. C'est-à-dire qu'on est tombé dans la caricature des arguments que l'on entend depuis 10 ans. C'est-à-dire que les OGM ne sont pas dangereux. De toute façon, si nous, on n'en fabrique pas, c'est les autres qui le feront. Tout ça. Enfin, voilà. Je vous avoue que ça m'a particulièrement agacé. Il a menti alors que ce monsieur est bardé de diplômes et payé avec nos impôts. Il est venu déposer sous serment. Enfin bon, c'est un grand délire. Bref, je passe tous les témoins de la partie adverse. Et nous avons fait citer donc quelques personnes, dont Jean-Claude Bourguignon. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais en substance, c'est quelqu'un qui travaille à l'INRA, qui est maintenant spécialiste de la microbiologie des sols, et qui est venu témoigner de son travail qu'il fait tous les jours avec les agriculteurs, c'est-à-dire que lui n'hésite pas à mettre une paire de bottes en caoutchouc et aller dans les champs, ce que ne savent plus faire les gens de l'INRA, hormis pour s'occuper de leurs anciens essais d'OGM d'ailleurs, mais il n'était pas très grand. Donc ce monsieur Bourguignon est venu prouver par A plus B que le cournouet n'était absolument pas un problème en soi, en tout cas dans des proportions. En fait, le cournouet est une maladie, si elle est à 5 ou 6% dans le champ sur les pieds de vigne, c'est même un avantage pour le vigneron, ça améliore la qualité. C'est à partir d'un certain pourcentage d'infestation que ça devient un problème. Mais même dans ce cas-là, ce monsieur a mis en avant que lui, avec des pratiques en biodynamie, c'est-à-dire que l'on respecte l'environnement, alors vraiment de façon très poussée, il avait réussi à éradiquer le cournouet des parcelles sur lesquelles il avait eu à travailler, partout dans le monde, hein, de l'Amérique du Sud à l'Australie, il a bien expliqué ça. Et ça a fait le pont directement avec un grand cru français, dont la dame qui s'occupe de ce grand cru est venue aussi témoigner à la suite et a bien expliqué que le cournouet, s'il infestait les sols, c'était avant tout parce que les sols étaient de mauvaise qualité, c'est-à-dire subis à des pesticides, enfin soumis à des pesticides tout au long de l'année, pas de rotation de culture, des labours profonds, tout ça. Donc là, on a réussi à nous vraiment démontrer, je crois, au travers de ces deux personnes, que le cournouet n'était vraiment pas un problème. En tout cas, qu'il ne justifiait pas l'appel à la transgenèse, c'est-à-dire à l'OGM, dans l'environnement pour lutter contre. Ensuite, nous avons aussi eu des témoins, donc un petit peu plus sur la partie sociologique, qui ont essayé de démonter ce fameux processus que l'INRA prétend démocratique autour du CLS, ce comité local de suivi. Et donc là, ils ont très très bien démontré qu'ils n'avaient de démocratique que le nom. Donc toujours pour cette raison que je vous ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas posé la question est-ce qu'il faut faire ou pas un essai d'OGM, mais comment on va le faire, ce qui est donc déjà bien biaisé à la base. Nous avons aussi un témoin sur la désobéissance civique, en l'occurrence au travail de M. Jean-Baptiste Libouban, qui est quand même l'initiateur des faucheurs volontaires en 2003 sur le plateau du Larzac. Voilà, je ne sais pas, vous voulez que je vous raconte quoi d'autre maintenant ?
Peut-être faire un petit point sur ce qui reste dans le déroulement du procès.
Alors demain, nous attaquons à 8h30 du matin, comme tous les jours. Ça fait des grandes journées. Et en fait, ça va se décomposer de la façon suivante. Comme d'habitude, donc réquisitoire du procureur, il ne peut pas en gros faire autrement. D'ailleurs, c'est à noter, dans tout ce procès, il n'a quasiment pas parlé. Le procureur a été d'un silence assourdissant. C'est pas très bon signe, j'ai l'impression, hein. Ce n'est que mon sentiment. Donc, réquisitoire du procureur, donc on va savoir combien le procureur, qui est donc le représentant de la loi et de l'État au sein d'une cour de justice, va réclamer, c'est-à-dire en amende, en jour amende prison, c'est-à-dire qu'on paye à la place d'aller en prison, ou on est en prison avec sursis, voilà, tout ça. Ensuite, ça va être la plaidoirie du ou des avocats adverses, parce qu'ils sont deux, on ne sait pas combien vont plaider, et ensuite la plaidoirie de nos avocats. Alors, nos avocats, on ne les a pas choisis par hasard, d'ailleurs. Il y en a un qui s'appelle Guillaume Tumerel, qui est donc l'avocat qui suit le dossier Charca. Alors juste pour faire une petite parenthèse pour les auditeurs, la Charca est une maladie qui a infesté notamment tous les pourtours de la Drôme et une grosse région d'arboriculture. Et cette maladie, en fait, s'est échappée d'un laboratoire d'essai de l'INRA, donc en plein air. Et donc, il maîtrise assez bien les petites incohérences de l'INRA qui amènent, par exemple, à ce genre de catastrophe avec la charca qui met à mal la culture de fruits. Et le second avocat que l'on a, lui est spécialiste et est avocat de l'environnement. et aussi un peu spécialisé en non-violence, puisque c'est lui qui a suivi les jeunes du Ganva. Peut-être vous vous rappelez de ces trois jeunes, quatre jeunes même, qui se sont fait gravement blesser les mains avec coupure de tendons, brûlure au troisième degré, en voulant bloquer un train.
Ouais, on a fait plusieurs émissions là, pour
voilà,
en parler.
Déchets nucléaires. Et ben voilà, nous, il nous a plu, on avait été le voir plaider, on l'a trouvé plutôt intéressant et on l'a choisi pour défendre ce que l'on estime être une juste cause par rapport au moins à l'environnement et au bien commun.
Et au niveau de l'organisation des soutiens, un peu des mobilisations et tout ça?
Alors sur place, effectivement, on a pas mal de soutiens. On regrettera toujours la chose suivante, c'est qu'on a fauché de la vigne. C'est un procès qui tourne sur la vigne OGM, sur la viticulture, qui est quand même un symbole de la France. Hein, faut pas oublier, beaucoup d'AOC, de produits de terroir, encore de bonne qualité, pourvu que vous l'achetiez bio. Malheureusement, la date de 28, 29, 30 septembre tombe en plein pendant les vendanges. Et ça, pour nous, c'est un vrai souci, parce qu'on sait forcément qu'il y a beaucoup de viticulteurs qui auraient aimé venir nous soutenir et qui sont tenus au champ, parce que s'il y a bien un moment où ils sont dans le speed et même dans le stress, moi, je reviens de Saint-Émilion, là, j'ai passé 10 jours de vendange aussi, c'est bien ce moment-là, parce que la vendange est un moment crucial dans l'élaboration du vin. Donc ça, c'était un peu bloquant. Mais bon, pour tous les autres qui sont venus, quelques vignerons aussi, qui avaient fait les vendanges déjà. Il y a eu des bus qui sont venus, il y a eu trois bus qui sont venus un peu partout de la France. Et ici, il y a des conférences, des débats, des projections de films. Il y a de la super bouffe. Là, ce soir, on a eu choucroute, c'était super bon. Ça requinque bien pour demain. Il y a un très bon accueil, très bonne ambiance. Donc voilà, tout va pour le mieux pour l'instant. Nous, on est globalement assez satisfaits de ce procès. Même à la rigueur, si on se prend une condamnation, parce que de toute façon, on considère qu'on a déjà mis un gros coup de pompe dans la fourmilière, hein, pour parler un peu familièrement, autour de la recherche publique française. Et c'était ça le débat qu'on voulait mener.
Justement, voilà. Oui. À quoi vous vous attendez comme condamnation?
Alors, là, c'est ma modeste expérience. Je ne vais faire strictement aucun pronostic. Pourquoi je ne vais pas faire de pronostic? Parce que c'est extrêmement compliqué de dégager une impression de débat, même sur deux jours. Parce que, comment dire, le maïs qu'on a fauché pendant de 2004 à 2008, là, avant son interdiction, il faut quand même se rendre compte qu'on est encore aujourd'hui, on passe en procès alors qu'on a fauché un maïs illégal. On ne devrait même pas aller au tribunal. Or, ils osent nous y mettre encore. Donc, faire un pronostic, c'est vraiment toujours très compliqué. Moi, je ne m'attends pas à une relaxe. Ce serait un vrai miracle, vraiment. Je ne m'attends pas à une relaxe particulière. Après, moi, à mon avis, tout va jouer dans la force de la peine. Est-ce qu'on va tous se prendre 2 mois ferme, 3 mois avec sursis, l'amende, combien elle va être? Il faut savoir que l'INRA demande un petit peu plus de 550 000 euros de dommages et intérêts sur cette affaire. Donc, amis auditeurs, si jamais on est condamné à tout ça, je vous invite à venir acheter plein de bières des faucheurs, plein de t-shirts pour nous aider à payer. Parce que c'est aussi,
Justement, ouais, ça m'amenait à la question suivante, c'était au niveau des dons et puis des soutiens, parce que les frais de justice et tout ça, ça coûte cher. Et même sans condamnation, d'ailleurs, c'est déjà des sous. Donc, est-ce qu'il y a des caisses ou des dons ou,
alors, où est-ce qu'on peut vous envoyer les dons?
Bien sûr. Donc, vous avez un site internet que j'ai envoyé à la radio tout à l'heure. On m'a dit que vous le mettriez en ligne. C'est soutiencolmar.on, comme Narcisse, lc.fr. Donc, soutiencolmar, tout accroché, .onlc.fr. Vous le trouverez apparemment en ligne sur votre radio. Là-dessus, vous aurez plein d'informations, de quoi nous soutenir. Sinon, vous avez aussi monde-solidaire, vous avez Sans Gêne. Alors, Sans Gêne, c'est une petite structure, vous tapez Sans Gêne sur Internet, qui est chargée de récupérer des sous, qui nous aide à payer les dommages et intérêts, justement. Ça, c'est quand même un peu le nerf de la guerre aussi, le pognon, parce que dans cette lutte qu'on mène depuis 2004 maintenant, c'est-à-dire que les paysans avaient commencé avant, hein, dans les années 95 déjà, ça fauchait dur, mais ils n'arrivaient pas à faire péter le truc, médiatiquement parlant, à dénoncer cette affaire. Et donc le citoyen, en train des faucheurs volontaires, est venu l'aider. Et en gros, depuis 2004, on en est à largement plus d'1 million d'euros au total de frais. Et ça, comment on arrive à les payer? Eh bien, c'est les dons, c'est les soutiens aux faucheurs au travers donc de bières, de t-shirts, de produits, on fait des cuvées de vin des faucheurs, on fait des autocollants, on a sorti plein de choses rigolotes et intéressantes, là, une affiche de soutien là, pour ce procès. Donc vous avez plein de moyens de nous soutenir. Nous, on accepte d'aller au charbon, mais il faut qu'on ait... On pense qu'on a la légitimité populaire derrière nous. Maintenant, il faut... J'appelle tout le monde à donner 2 francs 6 sous si vous êtes riche et gentil, voire les deux.
Eh bien, le message est passé et puis on rappellera...
Merci beaucoup,
merci en tout cas. On rappellera tous les liens sur le site de Zoom Écologie. Et puis, on te remercie, Guillaume, pour ton intervention et tes éclaircissements. Aussi pour ton intervention la semaine dernière. Voilà, et puis bon courage à tous et puis que la lutte continue.
Exactement,
salut. Pour
conclure, la lutte continue et on ne lâchera rien.
Et donc un petit agenda rapide avant de vous laisser avec Musique Antille. Donc ce week-end, donc, il y a le festival FPP, bien sûr, vous êtes au courant, vendredi et samedi. Il y a aussi le salon Bâtir écologique de vendredi à dimanche qui va se passer. À la Grande Halle de la Villette, métro Porte de Pantin. Donc, il y a des invitations à la radio, si vous voulez. Donc, c'est un salon sur tout ce qui est construction saine et habitat écologique, économe en énergie, sain, sympa pour y habiter. Voilà.
Autre information aussi, donc, à Notre-Dame-des-Landes, il y a une lutte contre l'aéroport, un projet d'aéroport qui date depuis longtemps. Et donc, il y a un appel à occupation des terres contre l'aéroport. Donc, il y a plusieurs maisons à occuper. Un camping sur place qui est possible. Donc, pour ceux que ça intéresse, pour aller soutenir les copains là-bas, vous pouvez aller sur reclaimthefields.org ou sur zad.nadir.org.
Et pour les auditeurs de FEP qui connaissent un peu, il y a le site Son en lutte sur lequel il y a déjà deux interviews qui ont été faites par Radio ZAD, qui est une radio pirate qui émet sur la zone à détruire pour Vinci et à défendre pour les autres.
Donc voilà, c'était juste un petit signe de solidarité envers les copains aussi là-bas. Et donc du coup, on va finir là-dessus. Donc, Johan va ajouter une petite info et après ça, on clôturera.
Oui, une dernière info à propos du Loop, un laboratoire ouvert ou pas. Un truc à surveiller, vous allez en entendre parler dans les médias, mais aussi parce que vous risquez de nous y retrouver éventuellement pour reparler environnement et on risque peut-être de faire une émission avec eux pour traiter de la question de l'énergie. Ils ne sont pas encore au courant, mais on va les mettre au courant. Voilà, voilà.
Merci à tous. Donc, vous étiez donc sur Zoom Écologie, sur Fréquence Paris Pluriel.
Avec
la bande à Bébert.
Aujourd'hui. Mais...
Dernière info, il y a aussi le festival donc, FPP qui a lieu donc, le 30...
Vendredi, demain et samedi, voilà. Après-demain.
Bon, et 30 septembre et le samedi 1er octobre. Donc, vous pouvez vous renseigner sur notre site internet donc de rfpp.net. Sur ce... Donc, on vous dit au revoir et donc salutations écologiques et solidaires. Salut!
Ciao!
FPP part en live.
FPP part en live.
106.3 FM.
Ligne 13 à Saint-Denis.
À partir de 14h les deux après-midi en plein air avec des émissions de radio en public et en direct.
Les shows enflammés.
Du théâtre.
De la musique.
Des animations pour des petits élégants.
Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM.
Le vendredi, c'est soirée hip-hop reggae.
À partir de 18h, open mic et freestyle DJ.
Concert à partir de 20h avec Ras Naya,
Kaya Manga,
Onili,
Little Frankie,
Mafia The Tree,
Ursa Major
et Nasmu. Yeah.
Le samedi, c'est soirée punk rock.
Concert à partir de 19h
avec Missia,
Burning Head,
Wunderbar,
Spermicide
et les marteaux piquettes.
Buvette et restauration sur place durant les deux jours.
106.3 FM.
Festival FPP part en live à la ligne 13
à Saint-Denis.
12 places de la Résistance, métro Porte de Paris.
Entrée libre les deux après-midi.
Tarif des concerts, 6 euros par soir.
En soutien à FPP, radio libre et non commerciale depuis 19 ans.
Yeah. 106.3 FM. 106.3 FM. 106.3 FM. 106.3 FM. 106.3 FM.